Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Graphite 94.9. Vous écoutez les Échos de l'innovation et aujourd'hui, Eugénie et moi, Agathe, animerons une émission autour de l'usage de l'énergie nucléaire. Nous sommes en compagnie de 4 étudiants de l'UTC. Si vous voulez bien vous présenter un à un.
Bonjour, alors moi c'est Raphaël Berry, je suis à l'UTC en 5e semestre.
Bonjour, moi c'est Jules, je suis à l'UTC en premier semestre.
Bonjour, moi c'est Nicolas et je suis à l'UTC en première année de génie biologique.
Bonjour, moi c'est Vincent et je suis à l'UTC en deuxième année.
Bonjour, moi c'est Eugénie, donc Agathe m'a introduit et je suis en TC1. Alors tout de suite, intéressons-nous à l'actualité scientifique de la semaine. Donc, des chercheurs de l'université de Harvard viennent de réaliser et d'observer la réaction chimique la plus froide obtenue en forçant un couplage moléculaire à une température de 500 nanokelvin, soit un demi-millionième de degré seulement au-dessus du zéro absolu. Plus précisément, ils ont pu décrire et observer chaque étape intermédiaire de la réaction entre deux atomes de potassium-rubidium. Ces molécules qui n'existent que dans un état ultra-froid ont la particularité d'être très faiblement liées. Si les réactions chimiques sont relativement bien connues dans la mécanique classique, le comportement des atomes devient bien plus hasardeux lorsque l'on s'approche du zéro absolu. Lorsque deux atomes sont mis en présence, une force répulsive empêche la formation de l'état lié. Pour vaincre cette force répulsive, les atomes doivent acquérir une grande énergie qu'ils n'ont pas à de très basses températures. Mais un phénomène quantique d'effet tunnel, propriété que possède un objet quantique à franchir un niveau élevé d'énergie, permet tout de même aux atomes de se rapprocher et de former un état lié avant la réaction. Cet état intermédiaire où les liaisons se rompent et se forment ne dure que quelques pics aux ondes, soit 10-9 secondes. Aussi, les chercheurs sont parvenus à ralentir la réaction de quelques microsecondes, pardon, en gelant la rotation et la vibration des réactifs. Ainsi piégés dans leur état intermédiaire, les molécules peuvent être observées par photoionisation, donc méthode qui permet de connaître la composition d'un gaz. Que retenir de tout ce blabla pour ceux qui arrivent en route ? Donc, les atomes et les molécules régissent des phénomènes quantiques encore très mal compris. En piégeant les molécules dans un état intermédiaire, les chercheurs ont pu ralentir la réaction chimique et observer chaque étape avec précision. Cela va permettre de mieux comprendre les processus chimiques qui gouvernent la respiration, la digestion et la fabrication de produits ménagers ou la production d'énergie. Voilà pour moi.
Merci Eugénie pour cette petite news scientifique. Nous allons maintenant revenir au sujet de cette émission, le nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire est source majoritaire d'énergie en France, à l'origine de 70 à 75% d'électricité selon les années. C'est un sujet qui prête à débat et nous sommes beaucoup à avoir des questions et des incertitudes au sujet du nucléaire. Nous tâcherons de répondre au mieux à celles-ci au début de l'émission, afin de débattre sur l'utilisation future du nucléaire en France. Tout d'abord, nous allons faire un petit rappel sur l'utilisation du nucléaire dans notre société et expliquerons brièvement son fonctionnement. Alors Raphaël, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer comment est extrait le nucléaire et comment ensuite il va être acheminé jusqu'à la centrale où nous produirons de l'électricité ?
En gros déjà, l'uranium c'est un métal radioactif présent dans le sous-sol de la Terre. Donc avant de pouvoir l'utiliser comme combustible dans les réacteurs des centrales nucléaires, il faut l'extraire et le transformer. Donc pour l'extraction, l'uranium c'est un métal assez répandu comme je l'ai dit dans le sous-sol de la Terre. Il est contenu dans des minerais qui sont extraits de gisements à ciel ouvert ou en galeries souterraines. Ces gisements se trouvent essentiellement en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et en Russie. Et en France, il en existe en Vendée, dans le Limousin, mais ils sont en voie d'épuisement. Donc pour le traitement, le minerai est réduit en petits morceaux qui sont finement broyés et soumis à des opérations chimiques pour en extraire l'aluminium. L'uranium, excusez-moi. Cela permet d'obtenir un uranium très concentré sous forme d'une poudre jaune appelée yellow cake. Donc 1000 tonnes de minerai donnent 1,5 à 10 tonnes de yellow cake.
Tu peux traduire yellow cake, s'il te plaît ?
Du coup, ça sera un gâteau jaune. Alors du coup, 1000 tonnes de minerai donnent de 1,5 à 10 tonnes de yellow cake contenant 75% d'uranium. Le yellow cake ou gâteau jaune est ensuite raffiné pour le débarrasser de ses impuretés et obtenir un uranium complètement pur. Et donc pour l'enrichissement, donc à ce stade, 1 kg d'uranium naturel est composé de 993 g d'uranium-238 et de 7 g d'uranium-235.
Et est-ce que tu peux nous expliquer pour nos auditeurs la différence entre qu'est-ce que ça veut dire même uranium-238 et uranium-235?
Alors seul l'uranium-235 est fissile, mais il n'est pas en proportion suffisante pour être utilisable dans les réacteurs des centrales. Et l'uranium doit donc être enrichi en uranium-235 de façon à ce qu'il en comporte entre 30 et 50 grammes.
Si je peux me permettre, on en parlera juste après.
Ah, ok, excuse-moi.
Du coup, pour la fabrication du combustible, alors une fois enrichi, l'uranium est transformé en poudre noire, comprimée et cuite au four. Elle donne des petits cylindres d'environ 7 grammes et de 1 cm de long, appelés pastilles. Et chaque pastille peut libérer autant d'énergie qu'une tonne de charbon, en équivalent énergétique. Ensuite, les pastilles sont enfilées dans des tubes en métal de 4 mètres de long, dont les extrémités sont bouchées pour constituer ce qu'on appelle des crayons. Et c'est ces crayons qui sont regroupés par l'eau dans des assemblages combustibles. Ces assemblages sont placés dans le cœur du réacteur pour le faire fonctionner. Les pastilles vont séjourner entre 4 et 5 ans dans le réacteur et subir des réactions de fission nucléaire. Et au fil du temps, elles vont s'épuiser en uranium-235 et devront être remplacées. Cette opération s'effectue dans l'eau car elle permet de piéger les rayonnements radioactifs. Et le combustible usé reste ensuite pendant 3 ans en piscine de refroidissement, le temps de perdre peu à peu une partie de sa radioactivité. Et après, dans la plupart des pays, pour le retraitement, le combustible usé est mis dans des conteneurs d'acier et transporté vers une usine de retraitement, celle de la Hague d'Areva en France, dans le département de la Manche, et la plus grande installation de retraitement du monde. Donc le retraitement consiste à séparer les différents éléments du combustible par des traitements mécaniques et chimiques de façon à les réutiliser et également à séparer les déchets. Ainsi, l'uranium est à nouveau enrichi pour produire du combustible nucléaire et 96% du combustible usé est réutilisé. La partie du combustible usé qui ne peut pas être réutilisée, appelée déchet ultime, est coulée dans du verre en fusion et entrepose pendant 30 à 40 ans à l'usine de la Hague. Voilà pour la
petite description. Ok, merci beaucoup. Donc Nicolas, on va enchaîner sur l'utilisation nucléaire, enfin plutôt son fonctionnement. Donc t'allais expliquer par exemple la question de Vincent sur la différence entre l'uranium 238 et 235. Tu peux commencer par là, par exemple, et après enchaîner.
Bah oui, alors globalement, je vais vous expliquer comment fonctionne une centrale nucléaire. Donc, avant d'en venir à l'uranium-235, une centrale nucléaire, il faut savoir que ça fonctionne sur le même principe exactement qu'une centrale thermique classique. C'est-à-dire qu'elle va utiliser une chaleur générée par un combustible pour faire bouillir de l'eau. Et la vapeur ainsi produite va faire tourner une turbine qui produira l'électricité. La différence, c'est que ici la chaleur elle est produite par un principe qui s'appelle la fission nucléaire. Alors la fission nucléaire, qu'est-ce que c'est ? C'est alors un atome est composé d'un noyau et d'un nuage d'électrons. Et donc la fission nucléaire a lieu lorsqu'un noyau lourd, donc avec beaucoup de protons et de neutrons, spontanément ou sous l'effet d'un apport d'énergie externe, se divise en plusieurs noyaux plus petits.
Excuse-moi, Nicolas, je te coupe. C'est quoi un proton et c'est quoi un neutron ?
Alors, ce sont des particules. Alors, on pourrait facilement faire toute une heure et bien plus sur ce que c'est qu'une particule. Mais en gros, il faut savoir que c'est les composants élémentaires de l'atome.
Voilà, c'est
des
particules élémentaires, j'allais rajouter.
Mais du noyau de l'atome.
Du noyau de l'atome. Et aussi, okay. Les électrons sont des particules aussi. Donc, concrètement, okay. C'est tout l'atome. Mais il faut se dire que les protons et les neutrons, c'est ce qui fait le poids de l'atome. C'est vraiment la partie qui fait la masse, en fait.
Donc, il y a les protons et les neutrons qui sont regroupés sur le noyau et juste des électrons très légers qui tournent autour.
Qui tournent autour. Et okay. Le nuage électronique est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Genre, je crois, 10 000 fois plus grand que le noyau.
Ok.
Mais le noyau fait genre 90% ou 99% du poids de l'atome. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour faire l'énergie. Donc, comme je le disais, quand il se brise, il libère de l'énergie sous forme de chaleur. Et c'est cette chaleur qu'on utilise pour faire bouillir l'eau dans le réacteur nucléaire. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise l'uranium ? Pour faire de la fission nucléaire, il faut un élément avec un noyau suffisamment lourd et instable. Alors, sur Terre, l'uranium naturel est l'élément le plus lourd que l'on trouve à l'état naturel. Mais on le trouve à 99,27% sous forme d'uranium-238, comme le disait Raphaël, qui n'est que faiblement radioactif. Et cependant, on trouve exactement 0,71% d'uranium-235, qui est le seul élément fissile disponible sur Terre à l'état de ressources naturelles. Donc pour l'utiliser de manière efficace, il faut l'enrichir. Pour ça, les barres d'uranium des réacteurs nucléaires possèdent 3 à 4% d'uranium-235. À titre de comparaison, donc c'est ce qu'on appelle l'uranium faiblement enrichi ou de qualité industrielle. Et à titre de comparaison, l'uranium de qualité militaire qu'on utilise pour faire les bombes atomiques possède 90% d'uranium-235. Donc il y a plusieurs sortes de manières d'enrichir l'uranium. On ne va pas toutes les développer, mais elles se basent toutes sur le fait qu'il y a une différence de poids entre l'uranium-238 et l'uranium-235. Et elles utilisent ça par centrifugation, par diffusion thermique, par plein de méthodes comme ça pour les séparer.
Mais donc, c'est quoi exactement la différence entre 235 et 238 ? C'est le nombre de neutrons, non ?
C'est le nombre de neutrons, ouais.
Parce qu'en fait, alors si je me souviens bien de mes cours de physique, un noyau est déterminé selon le nombre de protons, qui est en fait le nombre de charges positives. Mais par contre, ce même noyau, par exemple, le carbone, peut avoir autant de enfin, aura toujours le même nombre de protons, qui est 14, pardon. Mais il peut avoir différents nombres de neutrons qui, eux, n'ont pas de charge. Et c'est selon ce nombre de neutrons qu'on va avoir une radioactivité qui est différente pour l'uranium.
C'est ça. Parce que, en fait, selon la quantité de neutrons qu'on a dans le noyau, il va être plus ou moins stable. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit instable pour que quand il se brise, déjà, il va libérer des neutrons surnuméraire ou sous-numéraire, je ne sais plus. Mais en gros, je ne sais pas comment expliquer, mais en gros, il y a des neutrons qui vont être libérés. Il va y avoir d'autres éléments qui vont se former. C'est ce qui va former les déchets nucléaires, en fait. Et il y a aussi des neutrons qui vont aller frapper d'autres noyaux qui vont se briser à leur tour, et ainsi de suite. Et c'est une réaction en chaîne. Et c'est ça ce qui fait que quand un réacteur nucléaire est allumé, en fait, il fonctionne tout seul. Nous, on se contente d'essayer de freiner ou d'accélérer les neutrons pour augmenter ou diminuer la puissance. C'est-à-dire que plus ils sont lents, plus ils ont de chances de rencontrer un autre noyau et donc de faire la réaction. Donc plus les neutrons sont lents, plus la puissance du réacteur est forte. Et en fait, c'est comme ça qu'on contrôle la puissance. Et c'est pour ça qu'un réacteur est très long à arrêter. On ne peut pas juste appuyer sur un bouton et ça s'éteint, quoi. La réaction en chaîne continue. Donc ensuite, comment ça fonctionne ? Donc les centrales en elles-mêmes sont constituées de 3 circuits. Du moins en France, après il y a d'autres variantes. Le circuit primaire, c'est le circuit qui contient le cœur du réacteur et l'eau. Encore une fois, dans le cas des centrales françaises, après il y a des trucs avec du gaz, etc. Donc l'eau, elle est chauffée à 320 degrés, mais elle est maintenue sous pression pour l'empêcher de bouillir. Donc ce n'est pas de la vapeur d'eau, c'est toujours de l'eau liquide, mais à 320 degrés. C'est pour ça qu'on parle de REP, donc réacteur à eau pressurisée. C'est la technologie de 300 réacteurs sur les 454 actuellement en service dans le monde. Ensuite, il y a le circuit secondaire qui contient l'eau, qui utilise la chaleur du circuit primaire pour s'évaporer. Donc l'eau qui est au contact de la matière radioactive ne va pas passer dans le circuit secondaire. Et donc cette eau-là du circuit secondaire s'évapore, entraîne l'alternateur qui produit l'électricité. Et ensuite, cette électricité est transformée par un transformateur pour augmenter la tension électrique et avoir donc une sortie sur une ligne à très haute tension à 400 000 volts. Donc le circuit secondaire aussi est un circuit fermé, donc l'eau n'en sort pas. Et ensuite, il y a le circuit de refroidissement, qui est le circuit qui va capter la chaleur du circuit secondaire, qui va l'emmener... donc la vapeur d'eau du circuit secondaire est refroidie par l'eau du circuit de refroidissement. Et cette eau du circuit secondaire va recommencer son cycle, et le circuit de refroidissement apporte l'eau froide au condensateur, donc depuis la mer ou depuis une rivière. Et c'est cette eau-là qui refroidit dans les aéro-réfrigérants, qui sont les grosses cheminées qu'on voit dans les centrales nucléaires. Donc ces cheminées-là n'ont rien de radioactif ni rien, c'est de l'eau, de la vapeur d'eau, c'est tout simple qui sort. Et ce n'est pas du tout au-dessus du réacteur, c'est à côté, c'est juste pour refroidir l'eau.
Donc il n'y a que de la vapeur d'eau, il n'y a pas d'autres particules
C'est ça, il n'y a que de la vapeur d'eau. Okay. Et ce n'est pas non plus une grosse machinerie, quoi. C'est vraiment un tube. Si je me souviens bien, en fait, c'est juste la forme du tube qui fait qu'il y a un courant d'air qui se forme, qui fait qu'il y a toujours du vent dedans. Mais c'est pas des machines, un truc compliqué, quoi. C'est juste...
Et contrairement à ce que pensent plus de la moitié des Français. Une étude qui a été réalisée et qui disait que les gens ne savaient pas, ce qu'était la fumée qui sortait des usines nucléaires, qui pensaient qu'il y avait du CO2 et certaines particules radioactives. C'est faux, c'est que de l'eau.
Voilà, la centrale nucléaire en elle-même ne produit pas de CO2. Ni de gaz à effet de serre. Enfin, techniquement, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, mais bon, c'est pas du CO2.
Ne rentrons pas dans les détails.
Bref. on peut classer les centrales nucléaires ensuite. Donc maintenant, je passe au classement. Selon toutes sortes de critères, donc la technologie employée, la puissance fournie, il y en a des expérimentales, des civiles. Bon. Moi, je vous parlais des générations, qui est le système de classification mis en place en 2001 lors du Forum international Génération 4, et donc qui définit 4 générations. Donc la première génération, c'est les réacteurs qui ont été construits avant 1970. Donc, elle comprend les réacteurs UNG, uranium naturel, graphite, gaz. Donc, c'est des réacteurs nucléaires refroidis au gaz, développés en France dans les années 50, et aujourd'hui démantelés car obsolètes, qui étaient utilisés, entre autres, pour produire l'électricité et l'uranium pour la bombe atomique. J'ai marqué uranium, je crois que c'est plutonium, je me suis trompé. Ensuite, on avait des réacteurs à eau lourde refroidis au gaz, qui étaient surtout expérimentaux, et les REP, réacteurs à eau pressurisée, les premiers prototypes qui ont évolué de nos jours. Ensuite, la deuxième génération, c'est les réacteurs industriels construits entre 1970 et 1998 et qui sont toujours en service aujourd'hui. On y retrouve toutes sortes de technologies, notamment le RBMK, donc réacteur à eau bouillante, modérographique, modèle soviétique. dont le plus célèbre est le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, qui a explosé le 26 avril 1983, et dont il reste encore 10 modèles en activité, tous en ex-Union soviétique, et dont le dernier, Smolensk 3, mis en opération en janvier 1990, doit fermer en 2050. Ensuite, on a les réacteurs à eau bouillante, comme les réacteurs 1 à 3 du site de Fukushima, qui explosèrent dans les jours qui suivirent le tremblement de terre et le tsunami du 3 mars 2011. Et enfin, les REP, réacteurs à eau pressurisée, qui est la technologie des 58 réacteurs français actuels. Ensuite, j'accélère, la troisième génération.
N'accélère surtout pas, pardon. Tu parles déjà trop vite.
D'accord, alors je vais essayer de sauter un peu ce qui est inutile. Donc, la troisième génération, ce sont les réacteurs conçus après les années 90 et qui prennent en compte les enseignements de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et on a aussi la troisième génération plus, qui prend en compte les réactions, les enseignements de Fukushima. Donc c'est le cas de l'EPR de Flamanville, EPR pour European Pressurized Reactor, de troisième génération, qui est construit en construction depuis 2007. Et enfin, on a la quatrième génération, dont je pense que Vincent pourra nous parler un peu plus en détail plus tard, juste après l'émission des déchets, donc tout à l'heure. Et donc ce sont les réacteurs dits futurs, les six filières qui pourraient être mises en service à partir de 2030 et qui étaient à l'étude au sein du Forum international Génération 4. Donc on a trois modes de fonctionnement, la surgénération qui permet de produire plus d'isotopes fissiles qu'ils n'en consomment, l'incinération qui permet de consommer une petite partie des déchets radioactifs à très longue vie et un mode de fonctionnement classique à l'uranium 238 ou au thorium. Voilà.
Merci beaucoup Nicolas. Maintenant on va faire un petit passage sur la gestion des déchets. Raphaël, on a déjà parlé un petit peu. Est-ce que Jules, tu peux compléter ce qui a été dit sur la gestion des déchets une fois l'uranium utilisé ?
Oui, avec plaisir. Alors, comme Nicolas l'a expliqué, en fait, quand on produit l'électricité grâce au nucléaire, on produit des déchets qui, malheureusement, ne sont pas simples à gérer. ce qu'il faut savoir, excusez-moi, c'est que les déchets perdent naturellement et graduellement de leur activité en fait, avec le temps. Et que donc ça dépend en fait de leur durée de vie dépend
Est-ce que tu connais les types de produits?
Excusez-moi. Donc il y a 6 catégories de déchets en France qui sont classées en fait en fonction de leur durée de vie premièrement et aussi de leur activité, c'est-à-dire de savoir si ils ont une haute activité ou une basse activité qui en fait correspond aussi à leur niveau de dangerosité. Les six classes, je ne vais pas les énumérer une par une parce que ce serait trop long, mais en gros, vous avez les très actifs, les moins actifs, les très actifs qui sont très qui durent longtemps, et inversement, etc. Et donc, en fonction de ces différentes classes de déchets, ils vont être gérés différemment. C'est-à-dire que pour des déchets qui sont peu actifs mais qui ont une durée de vie moyenne, disons, ils seront par exemple stockés en surface puisqu'ils ne présentent pas spécialement de risque pour la santé. Et que donc c'est beaucoup plus simple de créer des centres de stockage en surface. Cependant, pour des déchets qui seraient beaucoup plus actifs, quelle que soit leur durée de vie, il faut les enfouir en profondeur, c'est ce qui a été décidé il y a quelques années par le gouvernement. Par exemple, les déchets à haute activité on a envie de les enfouir à l'est de la France, 500 mètres sous la terre, afin qu'ils soient en fait confinés et que ils soient moins dangereux en fait en profondeur qu'en surface. Je ne sais pas si c'est très clair.
C'était très clair. Je pense qu'on reviendra là-dessus quand on fera le débat pour savoir les avis de chacun sur cette mesure. Donc maintenant, on va parler un peu de l'innovation nucléaire, ce qui se fait en ce moment dans la recherche pour améliorer donc l'utilisation du nucléaire. Donc Vincent, si tu veux bien faire cette partie.
Même si certaines personnes en France sont contre le nucléaire, il faut savoir qu'il y a tout de même de l'innovation concernant cette technique. Celle qui fait peu parler, mais qui est très intéressante pour moi, c'est concernant la fusion nucléaire. Donc déjà, est-ce que quelqu'un ici sait ce que c'est la fusion nucléaire ?
Trop peu pour en parler.
Trop peu pour en parler. Ok, des ingénieurs qui ne sont pas capables de me répondre sur la fusion nucléaire.
Moi, je peux juste te dire que c'est lorsque deux noyaux plutôt légers fusionnent, se mettent en pour créer un nouvel élément.
C'est un peu le contraire
lourd
de la fission, quoi.
La fission, c'est un noyau lourd qui va en gros se briser pour former deux atomes plus légers, alors que la fusion, c'est l'inverse. C'est deux atomes très légers qui vont fusionner pour former un atome un peu plus lourd. Donc ici, la fusion de laquelle on parle, c'est la fusion qui se passe dans le Soleil. C'est-à-dire il y a deux atomes d'hydrogène, donc le tritium et le deutérium, qui vont fusionner pour former l'hélium. Et cette réaction va produire une quantité d'énergie faramineuse. C'est le soleil, ça produit donc, l'énergie qui permet de nous réchauffer, je veux dire, quelque chose de très logique. Mais c'est une grosse, grosse quantité d'énergie. Et aujourd'hui, en France, on essaye de reproduire ça à l'échelle de notre pays.
Enfin, tu dis aujourd'hui, mais juste ça fait très longtemps qu'on essaie de développer ça. Je veux dire, c'est pas nouveau.
1985. Non, c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau, mais quoi. Mais c'est vrai que ça a eu des débuts très difficiles comparé à la fission qui est quand même qui a été accessible beaucoup plus tôt.
C'est pas nouveau parce que c'est dur. Et en France, en tout cas, il y a plusieurs pays européens de l'OCDE ça va prendre en compte les États-Unis, le Japon, etc., qui ont lancé un projet qui s'appelle ITER en 1985. Et donc le but, c'était en fait de créer un réacteur de fusion nucléaire. Donc pour essayer de comprendre pourquoi c'est dur de faire un réacteur de fusion nucléaire, on va faire une petite analogie avec comment allumer un feu de bois. Donc comment on allume un feu de bois? Quelqu'un a-t-il la réponse?
On met du bois.
On met du bois et ensuite, qu'est-ce qu'on fait?
Un feu de bois dans une cheminée ou un feu dans un camp?
Dans une cheminée.
Normalement tu mets du petit bois et
après non, mais plus simple, okay,
et après tu mets
une grosse bûche.
Alors oui, non, j'ai même pas de cheminée chez moi.
Tu as besoin d'une allumette.
Ouais, non mais attends, voilà, il faut du petit bois avant.
Jusque qu'on a l'allumette. Donc tu as besoin d'une allumette.
Tu peux frotter très très fort et tu peux dormir. Il y a une étincelle qui se forme.
C'est que je vais vous
dire. Ça marche aussi.
C'est que tu as besoin d'un apport d'énergie pour que ton feu de bois démarre et ce feu de bois va libérer encore plus d'énergie. Tu vas craquer une petite allumette, ça va faire une petite flamme, donc il y a de l'énergie qui va se libérer. Et ensuite, tu vas allumer ton feu et ton feu va produire énormément d'énergie. Et là, c'est exactement pareil avec la fusion. Il faut apporter énormément d'énergie pour commencer une fusion. Mais on ne parle pas d'une allumette, on parle ici du coup de chauffer à plus de 150 millions de degrés.
Ah, d'accord.
Donc c'est pas pareil.
Oui, c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Et sachant qu'un réacteur nucléaire, c'est genre 320 degrés.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est pas pareil. Sauf que quand on fait chauffer quelque chose à plus de 150 millions de degrés, tout ce qui est autour... ça fond.
Mais après, voilà, c'est recherché aussi parce que l'énergie du coup qui est produite, bah, elle est d'autant plus décuplée.
D'autant
plus
intéressante, mais, ouais. faut
mais encore début, faut-il début, réussir
coup,
à contenir.
Chauffer énormément. Donc, pourquoi il faut chauffer? Parce que pour fusionner deux atomes, il faut en fait vaincre les répulsions électrostatiques qui éloignent du coup les deux noyaux de chaque atome. Et du coup, il faut apporter énormément d'énergie pour vaincre cette répulsion électrostatique.
Puisque 2 plus s'éloigne.
Merci, Gaël. Merci. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va utiliser des aimants ultra puissants qui vont stabiliser en fait cette fusion et qui vont éloigner du coup cette chaleur en fait des parois du réacteur pour pas qu'elle ne crame. Sauf que ça, c'est très très compliqué et ça consomme énormément d'énergie. Il y a deux tests qui sont assez marquants. Ça s'est passé en Russie et on a réussi à faire en gros de la fusion pendant une seconde. Sauf qu'on a utilisé 24 mégawatts d'énergie pour en récupérer que 16. Ce qui n'est pas du tout intéressant.
Pas très rentable.
Et on a fait à peu près la même chose en France. Ça a duré 6 minutes, donc ce qui était extraordinaire à l'époque. Et là, le projet ITER, c'est en 2025, ils vont essayer pendant 20 minutes. En injectant 50 mégawatts de puissance, ils vont essayer d'en récupérer 500. Et si on arrive à faire ça, on pourra rêver peut-être de créer une énergie propre. Du coup, parce que la fusion, ça n'émet pas comme le nucléaire, ça ne crée pas de déchets radioactifs. Et quelque chose qui n'est pas dangereux, parce qu'il n'y a pas tous ces risques de radiation. C'est dangereux en soi parce qu'on monte la température à une température très élevée, etc. Mais ça n'a pas tous les gros problèmes du coup du nucléaire actuel avec tous ces problèmes de radiation. Donc, ouais.
Et pourquoi en 2025? Parce que pour l'instant.
Ils se sont fixés la date de 2025. Ils okay. se sont dit déjà, ils ont du retard.
Ils travaillent dessus en ce moment.
Okay. Mais vu que c'est très dur, ça manque un peu de financement, notamment de la part des États-Unis, le projet traîne, etc. Okay. Et leur but, c'est du coup 2025, ils font les premiers tests. Et 2035, ils essayent à pleine puissance.
Okay. Ils ont fixé la date quand?
C'est un nouveau directeur qui a été nommé en début 2010, je crois, et qui a décidé de prendre les choses au moins et de dire 2025, on fait le premier test.
Okay. Okay.
Merci. D'accord, voilà merci beaucoup Vincent pour cette partie sur l'innovation nucléaire qui est très très intéressante. On va maintenant faire une petite pause musicale. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes bien sur Radiographie 94.9 et vous écoutez les échos de l'innovation. Aujourd'hui nous parlons de nucléaire et nous allons enchaîner maintenant sur pourquoi le nucléaire fait peur après avoir présenté brièvement ce qu'était le nucléaire. Donc d'abord on va parler des catastrophes nucléaires qu'il y a eu dans le monde, donc par exemple comme la catastrophe de Tchernobyl ou bien la catastrophe de Fukushima. Donc, je vous laisse commencer sur la catastrophe de Tchernobyl. Nicolas, je te laisse la parole.
Alors, lorsqu'on parle d'accident nucléaire, évidemment, le premier nom qui saute à l'esprit, c'est la catastrophe de Tchernobyl. Alors, qu'est-ce que c'est cette catastrophe ? Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de Tchernobyl explose en Ukraine et libère un nuage radioactif qui parcourt toute l'Europe. Donc, alors que l'Union soviétique tente de garder le secret le plus longtemps possible, en France, les autorités se veulent rassurantes. Mais la vérité finit peu à peu par échapper et donne lieu à un gigantesque scandale politique et médiatique. Donc, dans tout ça, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la centrale de Tchernobyl cette nuit du 25 au 26 avril ? C'est ce qu'on va voir tout de suite quand j'aurai trouvé mes notes. Voilà. Alors.
Moi, je vous dis, en attendant, vous pouvez regarder la série, elle est très très bien faite. Hein.
Alors,
je le répéterai plusieurs fois.
Je ne l'ai pas vue, mais c'est vrai qu'il paraît qu'elle est très très bien.
Demandez à Clément Mabie ce qu'il en pense.
Donc, ouais, Clément Mabie, c'est notre professeur de débat public. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, le matin du 25 avril, la centrale de Tchernobyl a programmé un test de sécurité pour vérifier si, lorsqu'il baisse la puissance du réacteur, c'est-à-dire que la réaction nucléaire a lieu sans produire d'électricité, est-ce que les systèmes de sécurité s'enclenchent ? Enfin, est-ce que la turbine réussit à fournir suffisamment d'électricité pour maintenir le refroidissement le temps que le système de sécurité s'enclenche ? Donc, pour faire ça, ils doivent baisser la puissance progressivement. C'est ce qui était prévu. Mais le soir, les villes alentour avaient besoin de plus d'électricité que prévu. Donc, ils n'ont pas pu baisser autant qu'ils voulaient. Ce qui fait qu'après, ils ont voulu baisser violemment la puissance pour faire leur test quand même. Et la puissance a baissé trop vite. C'est-à-dire qu'il y a eu des réactions chimiques qui sont faites dans le réacteur qui sont normales, mais qui ont eu lieu trop fort et du coup, qui ont complètement fait baisser la puissance en dessous de 1%, ce qui n'était pas normal. Du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va essayer de l'accélérer. Pour faire ça, ils ont utilisé, donc j'avais parlé tout à l'heure des systèmes de régulation, c'est des barres qui descendent et qui ont des matériaux qui accélèrent ou ralentissent la réaction. Le problème, c'est que leurs barres, elles avaient d'un côté le matériau qui accélère, de l'autre le matériau qui ralentit. Ce qui fait que quand ils ont descendu le matériau qui accélère, quand ils ont enlevé les barres, la réaction s'est accélérée trop vite, ce qui fait qu'ils ont voulu arrêter le truc d'urgence, et quand ils ont redescendu les barres, le premier truc qui est descendu, c'était le matériau qui accélère la réaction. Du coup, avant que les barres descendent totalement, le réacteur a explosé, il a fait sauter la dalle de béton qui était au-dessus du réacteur, ça a libéré le nuage radioactif, et la chute, on la connaît. Donc, ce qui se passe, c'est que ce nuage, il va se déplacer sur toute l'Europe. Il va se déposer. Alors, c'est pas un rayonnement qui émane de la centrale. Hein. C'est un truc qui se met un peu au hasard partout en Europe. C'est surtout ce qui est dangereux, c'est surtout les pluies, parce que quand il pleut, en fait, les radionucléides descendent et se fixent par terre. Donc, ça fait un peu des taches un peu partout en Europe. C'est pas uniforme. Et donc, maintenant, on estime que il y a eu un mort dans l'explosion. Une trentaine de personnes sont mortes dans les secondes au mois qui ont suivi l'explosion du fait de leur exposition aiguë aux radiations. Et on estime qu'il y a eu entre 4 000 et 16 000 cancers prématurés en Europe dus à la radiation de Tchernobyl, plus un chiffre qui est débattu de 6 000 morts parmi les 600 000 personnes qui sont allées travailler sur le réacteur pour essayer de le maintenir, de le réparer. Tu as une question, Agathe ?
Oui, sur les 30 personnes, enfin les 30 personnes que tu as citées, le chiffre, il vient de quel institut, si tu sais, enfin de quelle recherche ? Parce que je sais qu'il y a énormément de différences entre les chiffres donnés par l'URSS et les chiffres donnés ailleurs. Il me semble que 30, ouais, c'était donné par l'URSS.
Ouais, alors je sais plus.
Et qu'en réalité, il y en a beaucoup plus.
Très franchement, j'ai cherché beaucoup de chiffres partout. J'avais du mal à trouver justement des chiffres. Ouais, qui j'aurais pu te dire de quelle source ça vient.
Rien que ceux qui étaient sur le pont et qui observaient l'explosion, tous ceux-là sont morts dans les mois qui ont suivi, et je pense qu'ils étaient plus que 30. Du coup, 30 me paraît très peu.
Honnêtement, je sais pas.
Après, tous les pompiers.
Alors, j'avais lu, oui.
Les pompiers et tous les scientifiques qui sont descendus pour essayer de régler les problèmes sous les ordres de.
Oui, après, ça, c'est autre chose. Là, c'était l'explosion aiguë, donc immédiatement dans la suite de l'explosion. Mais après, oui, il y a eu donc, au moins 6 000 morts sur les 600 000 qui sont allés travailler. Et évidemment, c'est encore un chiffre qui est débattu. On ne sait pas exactement combien de gens sont morts parmi les liquidateurs, donc les gens qui sont venus faire les travaux. Parce que Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait du coup, déjà du 27 avril au 7 mai, 5000 tonnes de matériaux, donc du sable, du bore, de l'argile, du plomb, sont déversées par hélicoptère pour recouvrir le réacteur. Et le corium, donc le corium, en fait, c'est le cœur du réacteur qui a fondu, donc tous les matériaux dont on parlait, le crayon, les crayons de barre d'uranium, tout ça, ça fond, ça fait une espèce de boue qui tombe dans le réacteur, en fait, qui fait fondre le fond du réacteur. Donc pour recouvrir ça, pour empêcher la réaction de s'échapper, ils ont versé des tas de matériaux. Et ensuite, ils ont construit à la hâte un sarcophage, donc en béton, pour empêcher les émanations. Et en 2016, un nouveau sarcophage qui est destiné à durer au moins une centaine d'années a été placé par-dessus celui qui existe déjà. Donc voilà.
Donc, pour un peu rebondir sur ce que je viens de dire, Nicolas, donc ça, c'est vrai, Tchernobyl, c'est une vraie catastrophe. Il y a eu énormément de morts. Ça a posé de gros problèmes dans la région, donc on a dû évacuer des gens, c'est toujours inhabité. Mais donc ça, s'il y a des vraies, réelles raisons d'avoir peur du nucléaire, c'est à cause de ça, de la mauvaise gestion du nucléaire. Et c'est ce qui s'est passé
à Tchernobyl,
c'est que c'est de la mauvaise gestion de la part de l'URSS sur leur centrale.
Ouais.
Cependant, pour rebondir, et du coup, moi, j'ai plus parlé de Fukushima.
Attends, parce que justement, ouais. je voulais parler aussi de la mauvaise gestion. C'était juste après, en fait, c'est qu'effectivement, déjà, il faut savoir que, par exemple, Pripyat, la ville qui est à côté de Tchernobyl, a été évacuée 30 heures après l'explosion. En fait, il y a beaucoup. Et on remarque qu'en France, comme à Tchernobyl, comme en Union soviétique, il y avait une peur de la panique des gens, parce que les gens ne comprenaient pas le nucléaire, avaient peur du nucléaire. Donc, il y a eu vraiment une tentative de couvrir l'affaire, de ne pas en parler, parce qu'ils avaient peur que si les gens paniquent, en fait, ça empire.
La vague s'est arrêtée à la frontière.
C'est ça, c'était...
Oui, mais ça, c'est carrément un mensonge. Pour le coup, c'est hyper bien fait dans la série. Et en fait, on voit vraiment bien tout ce que les scientifiques, etc., ou tout ce que les politiques essaient de faire pour gérer la catastrophe eux-mêmes, entre guillemets. Et en fait, à partir du moment où c'est complètement hors de contrôle, il y a un suicide. Et là, pour le coup, c'est la panique, pour le coup, quoi.
C'est ça.
C'est trop tard, entre guillemets.
Et donc, on va en parler après avec Fukushima. Mais voilà, Tchernobyl a été beaucoup moins bien géré, je trouve, personnellement, que Fukushima. C'était vraiment la panique totale. Personne ne savait quoi faire. Il n'y avait pas vraiment de protocole pour ce genre de choses. Et ça a servi à faire la base de l'échelle internationale des événements nucléaires, donc qui est une échelle de 0 à 7 de gravité des événements. Donc ça a servi d'étalon pour faire le niveau maximal, le niveau 7. Et la seule catastrophe nucléaire de niveau 7 qu'il y a eu depuis, c'est justement Fukushima. Avant de passer à Fukushima, juste, je vous invite à voir la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Defacator, qui a fait une excellente vidéo de comparaison entre le traitement de l'information pour Tchernobyl et pour l'incendie de Lubrizol récemment. Et c'est super intéressant.
Donc ouais, Fukushima, c'est vraiment différent de Tchernobyl. Et pour introduire ça, j'aimerais vous poser une question. En toute honnêteté, avant de préparer cette émission, pouvez-vous me dire combien pensez-vous qu'il y a eu de morts à Fukushima à cause des rayonnements ionisants de la centrale nucléaire? Avant de préparer cette émission, je pense que vous avez un peu une idée. Je veux savoir combien.
Moi, j'en ai vraiment aucune idée.
T'avais mais pas d'idée là, mais du coup, ça
en fait, je sais pas du tout s'il y avait des villes à côté. Je sais pas. Enfin, je sais qu'il y avait. Ça a touché l'eau de mer, tout ça, donc ça a pollué l'environnement, mais je sais pas exactement combien il y avait d'habitants à côté, donc je peux pas te dire.
Je dirais 300 000.
300 000
Ah non, pas 300 000.
Non, je rigole.
C'est plus qu'une bombe nucléaire, en fait.
Moi, j'en sais rien du tout.
Mais ça chiffre quand même en...
Alors, ouais, je sais pas, un 50 000.
Moi, du coup, je le sais, mais avant de faire mes recherches, j'aurais vraiment dit ouais, un millier ou une centaine.
Moi, j'aurais dit moins de 1000.
Okay. Moi, j'aurais dit quelques milliers.
Okay.
Si vous voulez un ordre de comparaison, Hiroshima et Nagasaki combinés, c'est entre 150 000 et 230 000 morts.
Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est que Fukushima, il y a eu énormément de choses vraiment fausses qui ont été racontées dans les médias. Donc, je peux vous citer... notamment France Inter, où il y a un journaliste qui a dit que la centrale de Fukushima a fait 18 000 morts. Je peux vous citer une autre chaîne de radio française qui a dit que des milliers de Japonais ont déposé des fleurs en hommage aux 18 000 victimes de la catastrophe de Fukushima. Ou encore Le Point qui a dit 1700 cancers mortels directement liés à la catastrophe nucléaire de Fukushima. Tout ça est juste faux. Donc il y a une instance qui s'occupe de, en gros... dire si les rayonnements ionisants ont atteint les populations ou pas. Ça s'appelle UNSCAR, c'est géré par l'ONU et c'est quelque chose sous la tutelle de l'ONU, donc par un groupe de scientifiques qui s'occupe de faire ça. Et leur rapport a dit il y a eu un mort à cause de Fukushima.
C'est qui ? On sait qui c'est ?
C'est un ouvrier qui a été exposé à des radiations trop importantes au début. Un mort. Ouais. Et toutes les populations aux alentours n'ont pas subi des rayonnements ionisants assez importants pour développer des risques de cancer.
Parce qu'elles ont été évacuées du coup, parce qu'il n'y avait rien autour.
Assez rapidement, et en fait, les radiations étaient juste trop diluées dans l'air.
Et les 18 000, ça vient d'où du coup ?
Et les 18 000, en fait, c'est le tsunami dans sa totalité. C'est le tsunami et les déplacements de population, etc., qui ont fait les morts. C'est
et le tremblement de terre aussi qu'il y avait juste avant.
Le tremblement de terre.
Ouais, c'est vrai, parce que du coup, moi, je savais qu'il y avait eu des morts, mais je m'étais pas posé la question sur qu'est-ce qui avait causé quoi précisément.
Contrairement à Tchernobyl, qui a été du coup une catastrophe humaine, Fukushima, on a la centrale de Fukushima, la destruction de la centrale de Fukushima, n'en a pas été une. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le danger du nucléaire est très mal compris en France. C'est en partie parce que les médias jouent très mal leur rôle. C'est vrai que Tchernobyl a été extrêmement. C'était horrible. Mais même en France. Est-ce que vous savez s'il y a eu une augmentation des cancers de la thyroïde à cause de l'accident de Tchernobyl ?
Ça dépend des études. Il y en a qui disent que oui et il y en a qui disent que non.
Le problème, c'est que...
c'est très difficile à savoir.
Moi, je vais vous parler des études qui me paraissent à peu près le plus sérieux. C'est en gros... j'ai oublié ma source. Donc du coup, mon argument ne tient plus la route. ce que je sais du sujet... excusez-moi, je ne peux pas citer ma source, donc ce n'est pas très... très bien d'un point de vue argumentaire, mais c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative de la thyroïde dans la région de l'Est de la France. Ce qui est même amusant de voir, c'est sur la même période, dans la région à l'Ouest, les cancers de la thyroïde ont augmenté plus rapidement.
D'ailleurs, un truc que j'ai vu en faisant mes recherches et qui m'a sidéré, c'est qu'en fait, à Tchernobyl, il y avait 4 réacteurs, et j'ai découvert qu'en fait, les 3 autres ont continué de fonctionner, et le dernier a été éteint en 2001, je crois. Du coup, il y a des gens qui ont continué à travailler à Tchernobyl après l'accident.
Donc c'est vraiment, il y a deux situations qui sont gérées de manière totalement opposée. Donc voilà, c'est juste pour dire, sur le nucléaire, oui, ça peut poser problème. Il y a eu une situation où ça a posé problème, et ça a été Tchernobyl. Fukushima, ça a posé problème parce qu'on a dû déplacer des populations, etc. Mais il n'y a pas eu de mort.
Après, il y a quand même eu un nuage radioactif, il y a quand même l'eau qui a été polluée, il y a quand même énormément de pertes de biodiversité.
L'eau polluée, ok, il y a de l'eau qui est polluée par des rayonnements ionisants. Sauf qu'il faut savoir qu'à peu près tout ce qui est de vivant est radioactif dans le monde.
Oui, vraiment. Mais par exemple, je pense que les poissons qui étaient là, ils n'ont pas trop survécu, tu vois.
La question, c'est la concentration.
Oui.
Et les eaux qui sont polluées à cause de Fukushima, ok, ça existe, mais la concentration est trop faible pour que ça ait un quelconque impact sur la vie humaine. Et donc ça, quelque chose qu'il faut vraiment comprendre.
Sur la vie humaine.
Sur la vie humaine. Et après, bon, c'est vrai que sur les animaux, j'ai pas trop de réponses. Mais en tout cas, sur la vie humaine, il y a zéro impact.
Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Fukushima, c'est pas comme à Tchernobyl, où genre ça a fait boum d'un coup. C'est explosé dans les jours qui ont suivi, parce qu'ils n'ont pas réussi à refroidir suffisamment. Comme je le disais, la réaction, elle dure longtemps, elle met du temps à s'éteindre, et ils ne pouvaient plus refroidir à cause du tsunami.
Et pour finir sur Fukushima, en tout cas, c'est tout ce que j'allais dire, c'est, de mon point de vue aussi, là, une mauvaise gestion des risques qui pouvaient arriver concernant cette centrale, parce que les ingénieurs, du coup, japonais, ont prévu... en gros, une centrale qui pouvait résister à un tsunami de 4,7 mètres. Sauf que la vague qui a en gros abîmé la centrale et causé tous ces problèmes faisait 14 mètres.
Donc c'est une autre situation. Mauvaise prévision des risques.
Les ingénieurs ont mal géré les risques.
Après, si je dis pas de bêtises, c'était un tremblement de terre de force 9. Donc, si je me trompe pas, c'est le plus gros tremblement de terre qu'on ait vu de l'histoire moderne en fait.
Ouais, au Japon, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte.
Ouais, mais à aucun moment ils se sont imaginés que ça pouvait être un aussi gros tremblement de terre. Donc en fait, ils ont fait toutes leurs mesures sur ça.
Et aussi, ils avaient fait des recherches, ils avaient prévu de remonter la hauteur du mur et ils ne l'ont pas fait à temps pour le tsunami.
Non, mais c'est avec des erreurs comme ça que justement on va pouvoir mieux dimensionner les nouvelles centrales.
Je crois qu'on commence déjà.
La génération 3 plus.
On commence déjà un peu à débattre avant de vraiment entrer dans le débat. On va mettre une petite musique. À tout à l'heure.
Alors, c'est quoi le venin ?
Une chanson caraïbe.
Maléfique.
Une mélodie mélancolique.
Bien netto, du ghetto.
L'après-midi plombé à mort.
Lui donne sous tempo.
Sous un ciel d'encre, des enfants jouent à lancer leurs couteaux. Au-dessus des caisses ou des vieux sages, l'oncle leur domino. Cette mélodie mélancolique qui vient de la Havane.
contient des ondes maléfiques aux allures de gitane. M'a dit un vieux conteur d'histoire, buveur de rhum hors pair, connu à Kingston un beau soir en lui payant des verres. Il y a longtemps, un marin fou, amant d'une gypsy, elle voulait tout lui donner tout, mais lui n'a rien compris. J'ai un peu oublié la suite, qui parle de vengeance, du danger des vraies amoureuses, de poison et de rance. Cette mélodie mélancolique qui vient de la Havane contient des ondes maléfiques aux allures de gitane. Amour couvert ou très obscur, provoquant le destin. Cette mélodie porte malheur et s'appelle le bonheur. La pluie qui envahit la rue, une chanson bizarre et maléfique qui fait fuir les marins. Moi je la chante pour le risque, on verra bien demain.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les Échos de l'innovation 94.9, sur Graphite 94.9 et vous écoutez les Échos de l'innovation. Donc aujourd'hui nous parlons du nucléaire, nous avons d'abord parlé de son fonctionnement et ensuite des risques du nucléaire. Nous allons maintenant débattre sur l'utilisation du nucléaire en France et donc son avenir dans le secteur de l'énergie en France. Donc il y a plusieurs personnes qui se proclament contre le nucléaire, donc il y a par exemple... des modèles qui sont créés avec des énergies 100% renouvelables, notamment par l'association Negawatt et par l'ADEME, donc qui est un organisme chargé de...
La maîtrise de l'énergie.
Exactement.
L'ADEME n'est pas contre le nucléaire.
N'est pas contre le nucléaire, mais il y a des propositions.
Il y a des propositions
de modèles avec des énergies 100% renouvelables. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces modèles ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous les soutenez ? Est-ce que vous êtes plutôt... vous les trouvez plutôt... vous êtes plutôt contre ?
Ce qu'il faut savoir de ces modèles, voilà, c'est qu'ils proposent un système où on ne produirait que de l'électricité, voire de l'énergie, si je ne m'abuse, je ne les connais pas assez, ces modèles, mais qui proviendraient à 100% d'énergie renouvelable. Donc on parle ici d'hydraulique, des biogaz, de la géothermie, ça va être quoi d'autre ? Ça va être,
L'hydroélectrique, je ne sais pas si tu l'as dit.
Ouais, c'est ça. Bon, après, le solaire, bien sûr, et l'éolien. Sauf qu'aujourd'hui... C'est beau, ça fait très bien sur le papier, mais les opposants à ces modèles-là disent juste que c'est premièrement pas utile et deuxièmement pas réalisable. Il y a toujours ce gros problème de stockage de l'électricité, donc il y a plusieurs moyens, on peut utiliser des batteries, des barrages réversibles, etc. Mais du coup, ça va... on a les métaux pour faire ces batteries.
Il y a un gros problème d'intermittence
pour le solaire et l'éolien. Donc c'est l'intermittence. Quand il n'y a pas de vent, bah, votre frigo ne fonctionne pas. Ou quand il n'y a pas de soleil, votre frigo ne fonctionne pas.
Puis surtout, ce qu'il faut, je rajoute juste, on a souvent une idée, moi j'avais une idée sur, par exemple, l'énergie solaire, comme quoi tout le monde pouvait, on pouvait tous en faire en mettant juste des panneaux, des panneaux solaires sur nos toits. Et en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. En fonction de l'inclinaison des panneaux, l'incidence des rayons, etc., ça produit plus ou moins d'énergie. Donc en fait, ce n'est pas du tout si simple, entre guillemets, que ce qu'on pense communément.
t'as cette notion de rendement qui est très importante, même pour le vent, il faut placer les éoliennes au bon endroit, etc. Donc pour avoir un peu un ordre de grandeur, donc on l'a dit au début de l'émission, il y a 75% de l'électricité en France qui est produite à partir de nucléaire, donc c'est conséquent. Et petite question aussi, j'aime bien vous poser des questions. Est-ce que vous savez quelle est la part en gros d'éolien et de solaire qui produisent de l'électricité en France?
Je crois que c'est genre 1%, ouais.
Solaire, je crois qu'on est à 1%. Et l'éolien, c'est 4-5%, je crois.
Ouais, c'est pas plus, ouais, pas plus que ça.
L'ensemble des énergies renouvelables, ça représente 20%, non?
Ouais, mais là, tu prends en compte autre chose. Tu prends en compte, en gros, le bois, etc.
Ouais,
donc,
il y a aussi la géothermie.
On parle d'énergie dans sa globalité et pas d'électricité. Okay. Et donc l'hydraulique, où on a un peu plus de 10%, et le reste, ça va être en gros du gaz et du fioul, parce qu'on en utilise encore aujourd'hui.
Et donc, à titre de comparaison, le nucléaire, on est à 70% en France.
Ouais, 70-75, ça dépend des années. Donc voilà, il faudrait remplacer tout ça, donc fermer toutes les centrales et rajouter du coup des panneaux solaires de partout et des éoliennes.
Et puis ça polluerait énormément en fait de fabriquer toutes ces éoliennes, puis ensuite de les réparer, de les remplacer quand elles ne sont plus en fonctionnement. Je ne sais pas si peut-être vous avez des chiffres là-dessus.
Moi j'ai des chiffres, mais ce qui me gêne premièrement avec ça, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que le combat numéro uno principal, c'est de lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre.
Ouais, c'est ça. Ah, avant de sortir du nucléaire, il faut sortir du carbone, quoi.
Je pense que c'est ce qui est le plus important. Or, il faut savoir que mettre des panneaux solaires et des éoliennes en France aujourd'hui, ça vous fait produire de plus en plus de gaz à effet de serre. Parce que en gros, sur sa globalité, donc en prenant tout le cycle de levier de vos machines, donc soit d'une centrale nucléaire, soit d'une éolienne.
Ouais, si on fait un bilan,
total sur la durée de vie. Hein, donc qu'on parle de la création, du démantèlement, au moment où on va chercher l'uranium, etc. Une centrale du coup nucléaire, ça va rejeter 6 grammes de CO2 par kilowattheure produit, alors que un panneau photovoltaïque, ça peut monter jusqu'à 80 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et une éolienne, du coup, on peut monter à 20 grammes de CO2 par un kilowattheure produit.
Et donc même, d'un point de vue, si on fait un bilan énergétique, pour la même quantité d'énergie de l'éolien, du solaire, comparé au nucléaire, ça ne fera pas le poids, ça pollue beaucoup plus que...
Ouais, c'est ça, ce que je dis, d'un point de vue purement, même en termes de
matière. C'est par rapport au kilowattheure, donc...
Donc kilowattheure, oui, c'est une notion qui caractérise, en gros, l'énergie produite. Une grandeur, pardon, qui caractérise l'énergie produite. Donc... clairement, si vous décidez aujourd'hui d'écouter la politique énergétique française, on va rajouter des éoliennes et des panneaux solaires parce que, je sais pas, c'est le projet écolo, etc.
Ça fait vert, quoi.
Ça fait propre, sauf que ça vous fait rajouter des gaz à effet de serre.
Après, je pense que la raison pour laquelle les gens ont peur du nucléaire, bon, déjà, il y a la peur des catastrophes comme Tchernobyl et Fukushima. Donc, on a vu que, bon, déjà, que les réacteurs français sont beaucoup plus modernes et beaucoup mieux sécurisés que Tchernobyl. Et on a des très faibles risques de tsunami de 13 mètres ou je ne sais plus combien de haut, 14 mètres de haut, voilà, sur nos côtes. Mais après, c'est vrai que je pense que vous serez d'accord avec moi quand même, on a des centrales qui sont trop vieilles, non? Enfin, je veux dire, on continue à leur allonger la vie parce que ça coûte super cher à construire. Mais après, peut-être qu'il faudrait passer à la génération suivante quand même.
Il y a ça, et c'est qu'une fois installées, ces centrales aussi, elles sont difficilement modifiables aussi.
Je vois Vincent qui s'indigne.
Mais Nicolas me tend une perche magnifique, je vais la prendre. Voilà, donc il y a ces problèmes de la durée de vie des centrales. Aujourd'hui, il faut savoir que donc, la plus vieille centrale, c'est celle de Fessenheim. Si je l'ai bien dit, Jules, c'est ça?
C'est correct, ça va.
Parce qu'il connaît la vie. Et donc voilà, donc c'est une centrale qui aura 40 ans en 2019. Et la question, c'est est-ce qu'on peut les faire durer plus longtemps? Et la réponse des scientifiques, des ingénieurs, et
non.
Oui.
Ah oui.
Mais est-ce qu'on peut l'utiliser aussi efficacement qu'une nouvelle centrale? Parce que je sais qu'il y a, par exemple, l'uranium peut être recyclé, et il me semble que les centrales les plus anciennes ne peuvent pas utiliser cet uranium qui est recyclé.
Ouais, donc là, tu parles de la surgénération.
Oui, c'est ça.
Zéro réacteur aujourd'hui en France ne fait ça.
Mais oui, mais il y en a qui peuvent le faire. Donc c'est bête de perdre autant d'énergie.
En France, on avait un projet à 5 milliards de faire un réacteur expérimental pour tester cette technologie. On a déjà mis, je ne sais plus comment il s'appelle, le réacteur, je l'avais noté, mais bon, c'est pas important. Voilà, on l'a abandonné parce que ça coûtait trop cher. On a dit, voilà, on l'abandonne jusqu'à au moins 2050, alors qu'on a déjà mis 800 millions dedans. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que le prétexte qu'on utilise pour ça, c'est qu'on a suffisamment d'uranium, on n'a pas besoin de le recycler. Sauf que derrière, y a des déchets qu'on aurait pu utiliser pour faire de l'énergie.
Et surtout qu'il est quand même recyclé. Déchets, en fait. Il est quand même recyclé. Et aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on a ce produit qui est recyclé, qui n'est pas utilisé, et ils ne savent pas quoi en faire.
Ouais, mais donc ouais, c'est ça, la surgénération, c'est intéressant. Mais sauf que du coup, on a eu ce problème, si on a arrêté la surgénération en 87, il y avait un réacteur en français qui faisait ça, parce qu'il y a eu des problèmes politiques et surtout économiques, ça coûtait très cher. Okay. Mais pour revenir sur la durée de vie, voilà, il y a l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire, donc c'est quelque chose d'indépendant d'EDF, qui s'occupe en gros de fixer les limites, les règles, etc. concernant le nucléaire. Et avec EDF, ils sont en train de voir pour, en gros, augmenter la durée de vie centrale jusqu'à 60 ans. Parce que cette limite de 40 ans, elle a été définie par les ingénieurs du coup à l'époque de la construction, et ils se sont dit, bah voilà, 40 ans, on est sûr à 100% que la centrale va être viable jusqu'à ce jour-là. On ne se pose pas les questions pour après. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'elles peuvent l'être prolongées plus longtemps. Donc l'ASN, en gros, va faire un cahier des charges, a dit EDF, vous allez me faire respecter ça, et c'est à EDF de faire respecter toutes ces normes. Si les normes sont respectées, l'ASN va aller faire toute cette piste d'inspection, et la durée de vie centrale pourrait être augmentée.
Et est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance pour respecter ces normes? Parce que quand on regarde l'EPR de Flamanville, par exemple, voilà, si on n'aurait pas mis le gendarme nucléaire sur le dos, ils auraient fait leur cuve
voilà, avec soudure défectueuse. Son rôle, c'est d'observer et de faire des inspections et de dire si, en gros, moi je pense qu'on peut faire confiance à l'ASN. À l'EPR de Flamanville, ils n'ont pas puni, mais...
Est-ce que vous pouvez développer? Parce que là, vous parlez de quelque chose, je pense, qui ne parle pas forcément à tout le monde.
L'ASN, du coup, c'est l'autorité de sûreté nucléaire.
Non, je te parlais de...
Oui, alors l'EPR, oui, c'est la nouvelle génération de réacteurs. Je crois qu'il y en a très peu qui sont déjà construits. Il y en a beaucoup qui sont en construction dans le monde, qui sont basés sur un modèle européen, donc European Pressure Reactor, un truc comme ça. Et du coup, ces EPR-là seraient donc une génération plus moderne qui utiliserait les avantages, enfin qui
plus sûr.
Tirerait les leçons de Fukushima et de Tchernobyl. Et donc, en fait, ils étaient en train d'en construire un à Flamanville, donc le réacteur 3 de Flamanville. Et le problème, c'est qu'ils ont... Le projet a pris du retard, ils ont accumulé du budget, ça coûte de plus en plus cher, de plus en plus... Normalement, il aurait dû être fini en 2012, je crois, un truc comme ça. Et là, maintenant, ils disent 2020, après, ils reculent encore. Et ça passe de 3 milliards à 8 milliards, donc c'est un gouffre financier. Et du coup, ils ont essayé de faire passer des matériaux qui étaient défectueux en disant « Non, mais c'est pas grave, au pire, on les réparera une fois sur place. S'il y a des problèmes, on les corrigera, voilà. » Mais voilà, c'est pas très raisonnable de faire ça, je trouve, personnellement.
Et l'ASN a tiré son expertise, a fait son expertise et a dit vous allez me refaire tout ça, sinon vous n'allez pas. Donc l'ASN a joué son rôle très bien, et maintenant EDF, du coup, a été condamné, mais pas puni, du coup,
dans ces cas-là,
doit refaire en fait tout ce qui a été défectueux.
Parce que l'ASN donc a fait son travail, mais comment elle a communiqué? Parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout ce qui s'était passé à Flamanville, j'en avais jamais entendu parler, donc est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication plutôt sur l'énergie nucléaire et donc son fonctionnement?
Alors, je sais que... Alors, c'est pas exactement ça, mais il y a... on avait parlé tout à l'heure des classifications des risques d'action nucléaire. En fait, en fonction du risque, il y a des procédures qui sont mises en place. Donc, dans un cas, ils mettent des communiqués de presse. Dans un autre cas, ils forcent les journalistes à communiquer dessus. C'est des règles de sécurité qui existent dans d'autres systèmes aussi. C'est ce qui arrivait, par exemple, avec l'incendie de Lubrizol, pareil. Du coup, normalement, les journalistes sont obligés de communiquer dessus. Mais je pense que, comme on le voit pour l'histoire de Fukushima et les 17 000 morts, ils ne savent pas toujours de quoi ils parlent, les journalistes.
C'est exactement ça, mais parce que, au-delà de... Là, tu parles d'informer les populations en cas d'accident ou quoi, mais on n'est juste pas informé tout court. C'est-à-dire que, au-delà de, en cas d'accident ou quoi, le nucléaire, j'en entends parler nulle part. Ou alors, quand j'entends parler, c'est on donne des grandes lignes et ou des trucs qui sont pas pertinents, entre guillemets, et qui aident pas vraiment à comprendre le fonctionnement et à enlever un peu tout le mystère qu'il y a autour de ça. Quoi.
T'as des journées qui font de très bons articles sur le nucléaire.
Bien sûr, mais je te dis que c'est mal communiqué parce que c'est pas facilement accessible, à mon sens.
Il y a d'erreurs, à mon avis, qui sont émises par les gens.
Oui, moi j'invite nos auditeurs à aller se renseigner sur les sites de l'IRSN, donc qui est indépendante et qui est très très bien faite, très avec une bonne expertise, ou l'ANDRA ou des sites comme ça qui sont des agences qui sont chargées de contrôle nucléaire, parce que c'est vrai qu'on va vraiment beaucoup n'importe quoi. Par exemple, pour illustrer Fukushima et Tchernobyl, moi j'avais beaucoup passé des vignettes YouTube avec, vous savez, des explosions nucléaires, des trucs comme ça. C'est pas, alors pour Tchernobyl, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas eu une mini-explosion nucléaire, mais globalement, c'est des explosions d'hydrogène, des trucs comme ça, ça n'a rien à voir avec le bombe atomique.
Et moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a des associations comme Greenpeace ou même le mouvement écolo en France qui se positionnent contre le nucléaire et qui en font un de leurs principaux combats. Et c'est là où ça va aussi influencer les gens, c'est que vous voyez Nicolas Hulot, son but, c'était de sortir le nucléaire. Les mouvements écolo en France aussi, leur but, c'est ça.
Il était contre CIGEO d'ailleurs, et puis quand il est arrivé dans le gouvernement, il s'est rendu compte que CIGEO, c'est le projet d'enfouissement définitif de nos déchets nucléaires. Et quand il est arrivé au gouvernement, il s'est rendu compte que c'était la solution la plus viable en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui sont contre ça parce que par principe, le radioactif c'est dangereux et c'est dangereux,
sont,
donc on n'en veut pas.
Ils connaissent pas, ils sont un peu dans l'ignorance et ils ont l'impression que c'est une boîte noire qui a un effet dangereux sur le long terme.
Pour un peu résumer ce que m'a pensé, c'est très personnel ce que je vais dire, c'est, je pense qu'on a d'autres priorités que de sortir du nucléaire en France. Moi, en tant que jeune et en tant que futur ingénieur, le réchauffement climatique est quelque chose qui me préoccupe largement plus que le nucléaire. Même si le nucléaire, il n'y a pas zéro risque, je suis d'accord.
Oui, voilà,
si
parce
on
que
pouvait me faire sortir du nucléaire demain, je
parce que j'allais dire, il y a plein de pays qui sortent du nucléaire, donc c'est qu'il y a bien un truc, c'est pas juste... Si c'était si bien, entre guillemets, les gens, ils en sortiraient
tant
pas.
Tant qu'on aura ce mode de consommation en France, sortir nucléaire est une erreur d'un point de vue environnemental. D'un point de vue environnemental, d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre.
Il faut penser aussi à comment se débarrasser des déchets radioactifs aussi.
Bah pour moi, ça, c'est quelque chose qui est assez bien géré par le projet CISEO, du coup, d'enfouissement des déchets
Des déchets, donc pour préciser, c'est des déchets qui seraient enfouis de manière parfaitement sécurisée. Ils sont en train de faire des expériences pour s'assurer que ça marche bien et que ça marche pour des centaines de milliers d'années. Et en plus, pour au moins les 100 prochaines années, je crois qu'il y aura moyen de les déterrer, si jamais, ou de les récupérer, mais si jamais on trouve des moyens de les recycler ou une meilleure solution.
Voilà, donc on va rester sur cette question en fait de l'avenir du nucléaire. On a chacun à donner un peu son avis, à vous de vous forger le vôtre. Donc c'était aujourd'hui notre dernière émission. On a été très heureux d'animer l'émission des Échos de l'innovation. On a d'abord parlé de la santé. On a parlé également des théories du complot, de la gestion des déchets en général en France, de la sensibilisation
au climat,
sur le changement climatique. Et aujourd'hui, nous allons parler du nucléaire. Vous pouvez retrouver ces différentes émissions sur le site de Graphite, de Radio Graphite, 94.9.
Dans la rubrique podcast.
Exactement, et cherchez donc les Échos de l'innovation. Donc, on vous souhaite de bonnes vacances, ou alors on espère que vous avez passé de bonnes vacances, selon le moment où vous nous écoutez. Et donc, Eugénie a un dernier mot à dire avant de vous quitter. Moi, je vous dis au revoir, et puis, bonne année.
Bonne année.
Bonne année.
Bonne fête.